Écoute bien ce que je vais te dire. Et je l'ai jamais dit à une autre fille.
Tu te sens seule le troisième mardi du mois, de 20h à 21h? Moi aussi. Alors rejoins-moi pour faire des LGBTs sur Radio Campus Angers. Culture queer, anecdotes, philo, art. La soirée s'annonce haute en couleurs sur LGBTs.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous sur LGBTs, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et lesbien. Alors ce soir, on se retrouve comme d'habitude avec Nouille et nos invités de ce soir, c'est Jade et Elvire. Comment ça va ?
Ça va très bien.
Ça va super.
Cool. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Moi, je m'appelle Elvire et je suis en dernière année aux Beaux-Arts en textile. Et je suis butch.
Moi, je m'appelle Jade et aussi je suis en troisième dernière année aux Beaux-Arts comme Elvire dans la même promo. Et pareil, je suis butch.
Yay! Donc, on va commencer aujourd'hui avec l'horoscope de Nouille, en espérant qu'il éclaire nos consciences. Et on pourra enchaîner sur une discussion sur les lesbiennes, et plus particulièrement sur l'identité butch, pour finir avec une review de séries et de films de Nouille. C'est parti!
C'est parti!
LGBTs.
Alors du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une route un peu plus spicy. Donc tout le monde va prendre cher aujourd'hui.
Super.
Ça a été coécrit par Lily. D'ailleurs, je tiens à donner du crédit. Donc si c'est nul, c'est sa faute. Lion, vous êtes les rois des cons. Sorry, Charlie. Sagittaire, j'espère que vous tomberez par terre. Ah oui, j'ai essayé de faire tout rimer aussi. Vous allez voir, c'est sympa. Taureau, vous êtes des beaux salauds. Gémeaux, vous avez un double visage et aucun d'eux n'est beau. Pardon, j'avais oublié. Elvire et Gémeaux, sorry.
Aïe.
Balance, jamais aucune prestance. Verseau, vous sentez le veau. Poisson, tête de thon, j'étais obligée. Bélier, gros caca des pieds. Cancer, MDR. Capricorne, plutôt Capricorne.
Ah.
Vierge, MDR. Scorpion, le fion. Merci à tous. Bravo.
LGBTs.
Alors, je me suis demandé comment introduire cette émission et je me suis dit qu'on ne pouvait pas commencer sans parler de Monique Wittig. Petit point sur Monique, qui est une penseuse majeure du féminisme, lesbienne radicale, à laquelle on doit de nombreux écrits majeurs dans le domaine, comme Les Guerrières en 1969, Le Corps Lesbien en 1973 ou encore La Pensée Straight en 92. Et en plus d'être une figure majeure du mouvement de la libération des femmes et d'être engagée dans de nombreuses luttes ouvrières, étudiantes et féministes, elle est une pionnière dans les études de genre et a fait du lesbianisme un positionnement politique pour s'opposer au modèle hétérosexuel dominant. Et donc elle a tenu beaucoup de discours pour... un peu mettre en place aussi les discussions autour des normes de genre. Et donc il y a une phrase que vous m'aviez dit quand on a discuté qui vient de Monique Wittig, qui est les lesbiennes ne sont pas des femmes. Et donc dans La Pensée Straight, elle dit à un moment: la catégorie du sexe est une catégorie totalitaire qui, pour prouver son existence, a ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elle forme l'esprit tout autant que le corps, puisqu'elle contrôle toute la production mentale. Elle possède nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elle. C'est la raison pour laquelle nous devons la détruire et commencer à penser au-delà d'elle si nous voulons commencer à penser vraiment, de la manière que nous pouvons détruire les sexes en tant que réalité sociologique si nous voulons commencer à exister. Donc, vraiment, selon ses dires, les lesbiennes ne sont pas des femmes, ce qui n'est pas sans rappeler aussi un sujet qu'on avait abordé dans la première émission, où la catégorie pédale est aussi une catégorie à part entière, en fait, et c'est vraiment quelque chose qui est très existant, en fait, partout dans la communauté. Elle a un rapport au langage aussi qui est très intéressant, de détruire et de reconstruire le langage pour en faire quelque chose de moins binaire et de quelque chose de plus ouvert et aussi beaucoup plus inclusif. du coup au féminin parce que les lesbiennes ont été beaucoup, beaucoup effacées de l'histoire. Et donc, ça a été aussi un gros sujet qui est ressorti dans nos discussions. Vous m'aviez donné aussi, bah, par exemple, l'exemple de Tamara Lempicka, qui était une peintre aussi connue en fait, que Picasso à son époque et qui aujourd'hui a disparu des livres d'histoire. Pareil, on a déjà pu évoquer Jill Johnston, qui a été un peu déterrée par des archives récupérées par Aminata Labor et Pauline Boulba. Pareil, Claude Cahen, qui a beaucoup été effacé. Donc,
J'ai une anecdote sur Claude Cahen, d'ailleurs. Il était dans mon lycée.
Mais moi aussi. On était à Guisto.
T'étais à Guisto ? Tout à fait. Oh, ok, la dinguerie. Bah oui, et ça va balancer sur ce lycée. Du coup, je sais pas si tu connais l'anecdote, que Claude aurait été lapidé là-bas et attaché à un arbre.
Ok, pas du tout.
Voilà. Donc, Guisto, on vous déteste.
Waouh ! Ok.
C'est tout pour
fun fact, merci.
Voilà, fun fact. Et du coup, oui, ce qui est beaucoup revenu dans nos discussions, c'est le fait que dans notre génération, il y a une volonté de repartir en arrière, d'aller piocher dans l'histoire, en fait, et de rétablir certaines vérités qui ont été effacées, en fait, des présences des lesbiennes, par exemple, et de toute autre catégorie de personnes queer, en fait. Voilà. Donc... on voulait commencer par un petit point sur la terminologie lesbienne. Vous m'aviez parlé d'une terminologie qui était très anglophone, vraiment une quantité énorme de catégories et de mots qui existent pour parler de la communauté lesbienne. Est-ce que vous voulez bien faire un petit abécédaire de toutes les couleurs ?
Bah, déjà sur le terme « butch » en soi, c'est vraiment une insulte de base qui vient de butcher, donc le boucher. Et c'était par rapport aux mains des lesbiennes, parce qu'à l'époque, elles travaillaient en usine. Donc elles avaient les mains hyper abîmées, hyper bouffies et tout. Et comme elles avaient vraiment cette allure vraiment très masculine, on les appelait les butchers. Et ça a été raccourci en butch. Et du coup, maintenant, c'est un terme comme PD, comme Gwyn, c'est un terme hyper politisé. Qui vient se réapproprier vraiment des insultes, en fait. Après, sur les termes, on a recherché encore ce week-end. Il y en a tellement. Mmh. Et surtout, en fait, on avait regardé une émission sur le Danemark où elle parlait d'un abécédaire.
Un ancien dictionnaire danois qui retrace, du coup, il date de 80 ou 90, je ne sais plus. Donc ça évolue constamment, enfin, les termes. Mais du coup, il y a beaucoup de termes et c'est souvent des grosses catégories qui enveloppent des sous-catégories, qui enveloppent elles-mêmes des sous-catégories, etc.
Ouais, et du coup, dans je ne sais plus quelles années, je me demande si ce n'est pas 80, Alix Dobkin, elle a fait le Lesbian Code, qui est une chanson où elle rigole, enfin, Alix Dobkin, elle est elle-même lesbienne, et elle rigole en fait de tous ces termes en inventant plein. Parce qu'en fait, y a tellement un besoin, on est tellement en tant que lesbienne mise de côté par la société, qu'il y a ce besoin de créer sa propre case aussi. Et c'est moqué au sein même de la communauté, mais enfin, on en rigole énormément entre lesbiennes. Et de l'extérieur, c'est vrai que les gens comprennent très peu ce que ça veut dire. Genre, c'est quoi une lipstick lesbienne ou même les high femme et tout Et il y a aussi des complications parce que comme c'est très anglophone, par exemple entre femme et femme, il y a une vraie différence dans les pays anglophones. Et en France, c'est impossible de faire cette différence parce que dire je suis une femme, quand t'es lesbienne, les gens ils vont un peu juste hocher la tête et pas comprendre que ce que tu revendiques, c'est une identité qui est hyper politique en vérité. Après, pour les termes, il y en a beaucoup qui viennent aussi, on en parlait, mais le U-Haul par exemple, ça vient de Orange is the New Black et tout.
Est-ce que tu voudrais bien expliquer justement la différence entre femme et femme?
Moi, je m'y connais très peu de ce côté-là. Donc, si je ne me trompe pas, femme, c'est une forme de féminité revendiquée chez une catégorie de lesbiennes. Et je crois que femme, c'est hyper politisé et que ça s'installe vraiment dans une histoire lesbienne, mais vraiment du côté femme.
Okay.
Et qui est vraiment un côté de l'histoire, pour le coup, lesbienne, que moi, je connais vraiment moins.
Et aussi, ça fait partie des rôles genrés. Il y avait pas mal masque et femme, où c'est vraiment, ça fait partie des codes lesbiens de ouf. Et souvent aussi, c'est associé à une certaine hétéronormativité des relations, où t'aurais C'est souvent associé aussi au bottom et au top. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a carrément des appellations genre femtop, bottom max, ce genre de choses. Et oui, c'est souvent associé à des codes hétéronormatifs des relations.
Et aussi, vous m'aviez parlé du coup de la différence dans la réception entre le mot dyke et le mot gwyn en français. Que le mot dyke a été beaucoup réapproprié par la communauté, alors que les mots en français, ils résistent plus à ça. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça ?
En fait, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a eu plus une volonté de politiser les sexualités. Et qu'en France, on a eu beaucoup moins ça. Par exemple, un des premiers drapeaux lesbiens, il s'appelait le dyke flag, en fait. Mmh. Et en France, il y a eu beaucoup moins de politisation. Et ça, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi.
Après, c'est surtout que la France, en général, sur ces sujets-là, queer, etc., a toujours été un peu plus latente. En tout cas, les informations, elles étaient beaucoup plus développées, surtout aux États-Unis. Mmh. Et le temps que ça arrive en France, etc., c'est pour ça que, par exemple, Monique Wittig, elle a vite bougé aux États-Unis pour enseigner, pour continuer ses projets avec sa compagne, etc. Mais ouais, c'est une question politique et de réception aussi, en général, des communautés et des évolutions. Mmh.
Il y a un truc que je trouve on entend beaucoup aussi de la part des personnes plus âgées queer, où c'est je veux pas mettre dans une catégorie, il y a trop de catégories maintenant, et j'ai l'impression qu'il y a un refus aussi de ça. J'entends surtout ça, ouais, des personnes plus âgées gays.
J'ai l'impression aussi que en France il y a eu beaucoup plus de honte, et par exemple aux États-Unis il y a quand même eu tout un grand mouvement de revendication de la sexualité, surtout après ce qui s'est passé à l'émeute de Stonewall. Et ce qu'on n'a pas eu en France du tout. Et du coup, en fait, aux États-Unis, les périodes sida, par exemple, elles ont été vécues avec énormément de force, même si ça a été très compliqué. Et en France, elles ont été vécues vraiment dans la honte, en fait. Et ce qui a été très, très difficile, et à cause du contexte politique aussi. Et sauf que du coup, j'ai l'impression que toute la communauté plus âgée, elle a énormément de mal parce qu'elle s'est fait tellement rejeter par la politique française, par sa propre communauté aussi, surtout pendant la période sida, du coup, où c'était un peu la chasse à l'homosexuel. Et que du coup, il y a une espèce de non-volonté de se politiser, de ne pas politiser sa sexualité par peur, justement, de se retrouver rejeté. Et se mettre dans une case, comme ils disent, ça revient à revendiquer une certaine place. Et eux, ils veulent plus s'intégrer. Après, c'est une certaine catégorie d'homosexuels.
C'est un peu les vieux de la vieille aussi, des codes qui ont beaucoup évolué, un peu attachés aux traditions.
Oui, c'est ça.
Il y a de ça aussi, je pense. Et du coup aussi, ce dont on a pu parler, c'est que l'identité lesbienne aussi, elle est très, très vaste en fait, sur tout un spectre entre la féminité et la masculinité, qui peut être hyper vaste dans plein de façons d'exprimer ça, que ce soit par l'habillement, la manière d'être. Vous m'avez parlé aussi beaucoup d'approches spirituelles de ces choses-là. Et est-ce qu'il y a des... C'est quoi les profils types C'est quoi les petits un peu croustillants, un peu rigolos dans les appellations, les choses comme ça?
Ah, la troglodyke.
Troglodyke.
Pardon.
La troglodyke.
Qui c'est?
C'est dans justement ce mini-documentaire sur la communauté lesbienne d'Amsterdam, entre autres. Et du coup, dans ce même bouquin qui regroupe le lexique un petit peu, et c'est juste une lesbienne moche. Voilà.
c'est vilain.
Dans ce dictionnaire, hier, Jade m'a envoyé justement certains termes qu'on retrouvait dans le dictionnaire. Il y a la evil vaginous.
Wow.
Qui est cette lesbienne hyper méchante, mais qui arrive à garder sa partenaire parce que c'est une bête de sexe.
Wow.
Donc il y a vraiment des termes, mais alors, mais des trucs. Et. Moi, une catégorie en tout cas que je trouve assez fun, c'est vraiment la Hey Mamas. Jade m'a dit récemment, mais tu m'as dit la Hey Mamas, il faut s'imaginer vraiment une lesbienne qui ressemble à Justin Bieber.
C'est vrai.
Oui. Qui mimique vraiment des comportements, mais d'hommes cis lycéens, quoi. Et moi, je la trouve hyper fun. Je sais qu'en général, les Hey Mamas, elles grandissent en dehors de ça, parce qu'après, elles se rendent compte. Mais où vraiment, et je sais qu'il faut passer par là.
Il y en a plein qui passent par là.
À chaque fois, je me dis, C'est genre, il faut que tu passes par là.
Ouais, c'est vraiment les fuckboys des lesbiennes.
Voilà, exactement. Exactement.
Et il y a un truc aussi que j'ai vu récemment, mais je crois que j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, surtout aux États-Unis, que les Hey Mama, en fait, c'était beaucoup, elles reprenaient beaucoup les codes d'hommes noirs. Et parce que c'est ce cliché-là de la masculinité extrême. Et que du coup, oui, les Hey Mama blanches, bon voilà, bof. Et il y avait aussi les studs.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Que c'est un terme, butch, c'est un terme qui est vraiment pour les lesbiennes blanches, généralement. Parce que les lesbiennes butch racisées, le terme c'est stud. Mm. Et par exemple, en français aussi, on a le terme pour dire une butch, mais qui est un tout petit peu féminisé, c'est la fouch.
Ah oui, c'est trop mignon comme
Et pour les fouch, du coup, racisés, c'est stem. Parce que c'est le mélange entre stud et femme. Donc voilà, il y a des termes aussi hyper spécifiques, mais qui parlent vraiment d'une histoire de couleur de peau en général, quoi.
Et donc du coup, si ça vous dit qu'on passe sur une discussion vraiment plus centrée sur qu'est-ce que c'est être butch ou stud, c'est quoi, du coup, tu nous as déjà expliqué les origines du terme, et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans le fond, être butch, plus particulièrement, du coup?
Bah, moi, quand on s'est rencontrés avec Elvire, donc ça fait 2 ans, mais du coup, je connaissais pas ce terme, c'est toi qui me l'as introduit. Et je trouvais ça assez intéressant dès le départ, mais du coup, je t'avais demandé ta première définition, qui a du coup bien évolué.
Elle était très mauvaise,
d'ailleurs. Elle était très mauvaise, mais c'est ça qui est intéressant, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est?
Tu veux partager la définition que t'avais à la base?
De base, mais en fait, je crois que j'essayais de m'auto-convaincre de plein de trucs. Mais de base, j'ai dit, moi, j'aimerais... Enfin, pour moi, être butch, c'est quand tu portes une jupe et que t'es perçu comme un homme cis qui porte une jupe. Alors, ça a énormément évolué, et c'est parce qu'à l'époque, j'avais énormément de mal avec tout ce qui était attrait à la féminité, et que du coup, j'aurais beaucoup aimé être perçue comme ça. Ça a évolué,
tiens à dire. Tout à fait. Et maintenant, pour nous deux, à peu près la bonne définition, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut être attaché à l'apparence et au style vestimentaire et général, enfin, de la personne. Du coup, le côté vraiment artificiel, mais surtout, c'est vraiment très spirituel. Et comme tu disais, c'était une manière de... Les butch sont un peu le symbole d'une masculinité qui est un peu réparatrice. Et du soin aussi, du care beaucoup.
Ouais, pour moi, les butch... Pour moi, les butch, en fait, c'est vraiment les réparatrices de la communauté lesbienne. Elles sont là pour réparer le lien que les lesbiennes, elles ont eu aux hommes, parce que c'est souvent un lien qui a été hyper complexe, hyper sexualisant, etc. Et les butch, elles sont aussi là pour montrer vraiment cet exemple d'une forme de masculinité qui est saine. Et en fait, butch, c'est plus que juste un apparat et d'être habillé avec des vêtements qui renvoient quelque chose de spécifique. Être butch, c'est plutôt montrer une certaine forme de... protection envers les autres, et une forme de galanterie, mais en fait qui n'est pas vraiment une galanterie toxique de « je te tiens la porte, vas-y passe ma belle » ou machin, tu vois. C'est vraiment plus une question de « je suis là pour toi et je suis là pour t'aider » en fait.
Vous avez des exemples de ça dans la pop culture
Bah justement, le problème c'est que... Du coup, je parlais avec Charlie et toi d'un livre qui s'appelle...
De quel tu parles ?
Iris Bray.
Ah, Sex
and the Series, voilà, d'Iris Bray. Du coup, qui retrace les représentations féminines, mais surtout queer, dans les séries et les films, vraiment culture populaire, etc. Et il y a tout un passage queer et un petit passage de 7-8 pages sur les butch. Et il y a très peu de représentations. Et s'il y en a, elles sont souvent sur le même axe, justement, de cette juste masculinité... apparente et souvent dans le côté machiste du terme.
Assez toxique, ouais.
J'avais pensé à Boo dans Regine Black.
Bien sûr.
Boo, même si c'est un personnage qu'on adore, déjà, Boo, à savoir, elle a un tatouage sur l'avant-bras avec écrit Butch.
Oui.
Qui est magnifique. Mais Boo, même quand tu regardes la série, l'exemple qu'elle donne des Butch, c'est des personnes hyper axées sur le cul. Pas très... elle prend pas vraiment soin des autres, elle profite énormément en fait.
Je trouve qu'il y a un peu des deux, et ce côté un peu galanterie est quand même présent dans le personnage, mais c'est vrai que j'ai hésité à en parler, à donner l'exemple, parce que c'est pas non plus le personnage le plus cutie-cute.
Non. Not Mais coquette. Par exemple, pour les studs, on pourrait parler, si on parle de Orange is the New Black, de Poussey.
Ah oui.
Qui, pour le coup, est un exemple d'une stud qui est vraiment dans cette idée d'une galanterie, d'un care des autres. Et ça, pour moi, c'est un exemple vraiment merveilleux, un des rares exemples qui est bon, en fait. Qui montre pas juste une butch, une stud qui est dans cette attitude hyper toxique, hyper masculine. Parce qu'il y a aussi beaucoup ce truc-là de vouloir un peu copier les comportements qu'on a vus, en fait, venant des hommes en général.
Oui.
Et vous m'aviez parlé aussi du coup de la différenciation entre butch et masque, que c'était pas du tout la même chose. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce sujet ?
Bah, on en a reparlé hier soir aussi. En recherchant...
Ça parle beaucoup.
Ça parle beaucoup.
On parle tout le temps.
Grand sujet. Et en fait, sur Internet, en tout cas version anglaise, c'est les mêmes définitions. Genre à un mot près, c'est la même chose. Mais du coup, nous, ce qu'on en a déduit, c'est juste, enfin, surtout l'aspect politique de la chose. Et souvent, les masques, c'est une catégorie parce que tu veux pas politiser ton identité. Mmh. Ce qui est totalement compréhensible. Mais...
Se dire butch, en tout cas, c'est aussi reconnaître que ton identité, elle a une histoire, qu'il y a eu des femmes avant toi qui ont revendiqué cette identité politique, en fait. Et se dire butch, c'est dire... je suis politisée, ma sexualité est politisée, mon intime est politique. Et ce qu'il n'y a pas chez les masques, en fait, de... ou alors très peu, mais il y a une espèce de peur du mot butch parce qu'il veut trop dire que tu politises ton intime. Ce que je comprends, ça fait flipper, hein, franchement.
Oui.
ça prend beaucoup d'énergie de faire ça. Et du coup, aussi en parlant de politique, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, dont vous m'avez parlé aussi, où du coup, il y a la notion aussi du spectre de la transidentité qui rentre aussi en jeu dans l'identité butch. Je crois que c'est toi, Elvire, qui m'a dit que tu peux te considérer cis, mais tu n'as pas le privilège d'être perçue comme une personne cis, parce que quand t'es butch, tu peux... T'es dans cette espèce d'entre-deux flou où les gens vont pas du tout te traiter comme une femme, même si tu peux te reconnaître en tant que telle.
Ouais. Moi, je dirais, ça dépend vraiment des personnes qui s'identifient comme butch. Mais il y a beaucoup de butch pour lesquels être butch, c'est sur le spectre de la non-binarité. Parce que, par exemple, pour mon cas, aujourd'hui, je me suis laissée plus pousser les cheveux et tout. Donc, je suis beaucoup plus traitée comme une femme cis qu'avant. Mais quand j'avais le crâne rasé ou quand j'avais des cheveux juste une coupe courte, j'avais aucun privilège entre gros guillemets, mais des femmes cis, parce que j'étais pas du tout traitée comme une personne cis. Et même encore aujourd'hui, le fait que moi, je me vois comme une butch, que je me perçoive pas vraiment comme une femme cis, y a toujours cet entre-deux de est-ce que je sais, ok, mais est-ce que j'ai le droit de mettre un pied dans la non-binarité aussi ? Parce que je me reconnais pas comme une femme cis, je me vois pas comme une femme cis, et pourtant je sais pas si j'irai jusqu'à dire que je suis non-binaire. Donc c'est une espèce de toute manière, pour moi, le genre c'est un questionnement, c'est hyper fluide, etc. Mais il y a quand même tous ces questionnements de là tout de suite où je me place et de cette volonté d'être perçue vraiment et de savoir en fait. Toi, t'en penses quoi de ce que je viens de dire ?
Vous.
Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Non, mais après, toi, on en a déjà parlé aussi, mais on a des expériences différentes de l'enfance, etc. Toi, t'as quand même, il y a eu des changements. T'es passée de différences opposées à
moi,
d'autres.
Moi, je suis vraiment, pour le coup, passée de femme à masque et après à butch. Et du coup, forcément, c'est un rapport hyper différent que toi, t'as vraiment grandi avec...
En
tomboy, quoi.
Vraiment full tomboy depuis que je suis née, donc...
Tu m'as raconté, c'était quoi ? C'était un sac que t'avais qui était rose, que t'as littéralement traîné sur le sol pour pouvoir le faire changer.
Bien sûr. Et du coup, depuis que je suis vraiment née, depuis que j'ai un an, il n'y a pas eu quand même une année où on ne m'a pas mégenrée. Enfin, vraiment, c'est assez constant, même si maintenant, pareil, du coup, mes cheveux sont plus longs, etc. Donc, et puis, dans l'enfance, il y a aussi un truc encore plus subvertif de ton identité de genre. Et je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où actuellement c'est à peu près la même chose, même si j'adore être. Comment dire ? Du coup, troubler le genre, entre autres, comme dirait Judith Butler. Pour autant, j'ai encore des doutes aussi sur est-ce que, pareil, je suis assez valide pour être non-binaire. Est-ce que je vais l'assumer constamment? Parce qu'il y a quand même un confort aussi dans le fait de, voilà, d'être cis, forcément. Mais en effet, c'est des questions qui se posent, d'où aussi les liens entre la transidentité et les butch.
Ouais, parce qu'en fait, il y a vraiment une question aussi du corps et de ce qu'on renvoie en tant que butch, parce qu'on est tellement habitué, même si aujourd'hui on l'a intégré quand même, ce truc de ces traits dans la tête, il y a quand même ce truc de comment je suis perçue, est-ce que je suis perçue comme une butch ou pas. Et dans la butch, il y a quand même un truc d'androgynie, en général, qui est hyper agréable. Enfin, moi, franchement, toutes les années où on m'a appelé monsieur et que j'étais genre, haha, tu t'es trompée, et que je le disais pas, et ça me faisait trop plaisir. Et j'en parlais à Jade récemment, ça me fait chier que les gens, ils me disent bonjour madame, et je suis vraiment en mode, j'aime pas trop ce qui se passe là. Le fait que tu doutes pas, ça m'énerve. Et on en parlait aussi avec toi, Charlie, justement, de c'est quand même entre butch, même si t'es butch et cis, il y a quand même un rapport à la transidentité qui est spécifique, par exemple avec la Mamec, où on t'en a parlé, du fait que je suis très à l'aise avec ma poitrine, mais notamment si, malgré tout, si demain on me disait t'as une Mamec gratuite, sans rien, rien à faire, juste pouf, bah, je l'accepte, bien sûr, je l'accepte. Et parce qu'il y a aussi ce truc de, mais je t'en parlais l'autre jour, mais des fois tu vois des mecs passer avec des t-shirts hyper moulants, et tu te dis, j'aimerais trop que ça me fitte comme lui,
Vois. Tellement.
Voilà. Je pense qu'on peut, on est...
Ouais.
Voilà.
On s'entend.
Ouais, bien sûr.
Nous sachons. Et aussi, vous m'aviez parlé du coup, dans les codes de la butchness, si on peut appeler ça comme ça, d'être OK, de sentir à l'aise, de justement un peu briser. Toi, tu dis du coup de laisser pousser les cheveux et que ça change du coup complètement le regard des autres sur ça. Comment ça se passe pour... je sais pas comment formuler ma phrase, mais on avait parlé du coup de que t'avais commencé à adopter plus de codes féminins et plus... comment ça, tu le vis tout ça aussi?
Je pense qu'il y a aussi un truc de vouloir accepter qui on est à 100%, et que je trouve ça hyper cool d'être butch et hyper masculine, etc. Mais pour autant, j'essaye de trouver des cheat codes, un petit peu, où je peux un petit peu, genre, slider sur est-ce que là, c'est un peu femme quand même, et tout ça. Et on en parlait beaucoup, mais par exemple, les mecs cis, quand ils portent des jupes, ils sont hyper praised. Genre, tout le monde est là en mode, yes,
bravo,
porte des jupes. Mais par contre, quand des personnes non-binaires ou des transmasques portent des jupes, c'est pas du tout perçu pareil. Et pour les butch, c'est un peu la même chose, genre... on a le droit à tout ça aussi, et ça change pas forcément notre identité. Mais en fait, c'est évidemment le truc du passing, en fait. Il y a aussi une histoire de passing chez les butch. Tu trouves?
Ah oui.
J'ai raison, ou je dis de la merde?
Non, je suis complètement d'accord, bien sûr.
Et du coup aussi, vous m'avez pas mal parlé de la réappropriation du passé et des figures du passé, de l'histoire, en fait, des butch. Parlez-moi de l'histoire des butch.
Vas-y. T'as déjà commencé tout à l'heure, donc...
Ouais, mais franchement, les trois quarts de l'histoire des butch que j'ai appris, je l'ai appris dans Stone Butch Blues, oui, de Leslie Feinberg en soi.
Faut en parler.
Vraiment, c'est une bible, ce truc. Et je me souviens très bien l'avoir lu et l'avoir fermé et m'être dit « Ok, là j'ai besoin de 3 mois pour m'en remettre. » Mais du coup, le truc, c'est que les butch ont souvent été très cachés. Donc dans les usines, comme je disais, notamment pour le travail, il faut savoir qu'il y avait une loi aux États-Unis à un moment qui faisait qu'on pouvait t'arrêter si tu portais pas 3 vêtements féminins sur toi, notamment en parlant des sous-vêtements aussi. Donc tu pouvais être en full costard, mais avoir un soutif, un porte-jartel et une culotte, on ne t'arrêtait pas. Mais par contre, si tu portais un calbar, on t'arrêtait.
Genre ils allaient vérifier, genre.
Ah oui, ils allaient vérifier, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il y a eu énormément de... Ça a été hyper complexe pour les butch, parce qu'il y a un truc aussi d'être à l'aise avec toi-même. Enfin, je veux dire, il y a énormément de butch qui, à l'époque, n'étaient pas à l'aise avec le fait de mettre mon fucking string en dentelle, tu vois, genre... Et du coup, en fait, il y avait aussi des moyens pour se reconnaître, parce qu'elles avaient un passing énorme à l'époque. Et du coup, il y avait un moyen pour les femmes aussi de repérer les butch qui étaient le mousqueton. Et selon l'endroit où tu le plaçais, c'est genre derrière en général ou devant, enfin selon quel passant de ton jean, dans quel passant tu le mettais, ça voulait dire aussi si t'étais top, si t'étais bottom. Il y avait l'histoire de la stone butch, évidemment, il y a la soft butch, donc il y a plein de trucs comme ça. Et en général, il y a eu aussi énormément ce truc de le butch for butch, qui était très perçu comme dégueulasse.
Oui. Bah, du coup, on peut faire une petite pause musicale avec une musique que vous avez choisie qui s'appelle Butch for Butch, du coup.
Ah, la transition.
Ouais, tout était
incroyable,
prévu.
Incroyable, bravo.
De Rio Romeo, donc c'est tout de suite pour la musique.
My sweetheart's piano is rat-filled, and mine is infested with bugs. The music we make is unnatural, but it sounds just like falling in love. This butch, this butch, this butch, this butch, she makes me go weak.
LGBTise. Alors, nous voilà de retour. Et donc, pour reprendre ce qu'on était en train de raconter, comme le fil est très bien construit, je ne pouvais pas m'imaginer faire cette émission sans parler de Stone Butch Blues, évidemment, de Leslie Feinberg. Et ça a été une énorme claque quand j'ai lu. Alors, le bouquin, c'est un gros parpaing. C'est vraiment un gros machin à lire.
Et, pour assommer les hommes.
Franchement, je pense que ça marche. Et en fait, ce livre, il a été écrit donc, par Leslie Feinberg, qui est une militante transgenre, communiste révolutionnaire et juive laïque, activiste antiraciste, donc tout, sur tous les plans, vraiment, Et Stone Butch Blues a été publié en 1993. Le livre est disponible en ligne, selon la volonté aussi de Leslie, qui voulait que ça soit accessible à tous. Et donc Stone Butch Blues raconte l'histoire de Jess, qui est née aux États-Unis dans les années 1950 dans une famille juive prolétaire. Et donc dans son enfance, Jess, elle vit beaucoup d'interrogations extérieure à elle sur son genre, où les gens lui posent constamment la question, est-ce que c'est un garçon ou une fille ? C'est très mal vu à l'époque, et son adolescence, elle découvre du coup les bars de nuit où elle côtoie des lesbiennes, des drag queens, des travailleuses du sexe, et donc dans tout le livre, on suit un peu ses aventures dans ces bars, son travail aussi à l'usine, comment elle côtoie d'autres butch. On voit aussi à un moment, Jess va transitionner, puis va arrêter, puis va rencontrer des gens. Et en fait, toute la métamorphose du mouvement LGBT, comment les luttes aussi LGBT passent, donc de ce qu'elle, elle connaît du milieu vraiment travailleur, ensuite à plus des choses... plus politisé dans les facs. Pareil aussi, l'abolition des Jim Crow laws. Il y a vraiment beaucoup d'aspects politiques en fait, des États-Unis qui sont abordés dans ce livre. Et c'est un témoignage hyper précieux de cette époque parce que y en a très peu en fait, sur ces thématiques-là. Et donc oui, il y a un petit point que je voulais un peu aborder rapidement, c'est la proximité entre les communautés lesbiennes et aussi transmasculines. Parce que aussi dans Stone Butch Blues, le personnage principal, donc Jess, à un moment va transitionner. Et il y a de nombreuses butch aussi qui font ce choix-là à un moment, qui reviennent ou non sur leur décision. Ça aussi, il y a plein de personnages et de personnes dans la vraie vie qui vivent ça très différemment. Et en fait, c'est souvent des communautés qui sont très proches parce que les communautés lesbiennes, c'est vraiment des lieux où la féminité est beaucoup questionnée, les rôles aussi des femmes, de ce qu'elles peuvent ou doivent faire, les images qu'elles doivent renvoyer. Les hommes trans, quand ils sont encore au placard ou pas d'ailleurs, se retrouvent beaucoup dedans. Donc ça, on le voit beaucoup dans Stone Butch Blues. Ça m'a beaucoup touchée comme livre. Et donc, aussi, dans Stone Butch Blues, il y a un truc dont on a pas mal discuté, c'est la réaction de Jess à un moment quand elle apprend qu'il y a une autre butch qui sort avec une autre butch et elle le prend super mal. C'est pour elle quelque chose d'impensable, quoi.
Ouais, elle lui dit, dans le livre, elle lui dit « c'est dégueulasse, enfin, comment tu peux faire ça ?» Et ça, moi, je me souviens, quand je l'ai lu, je l'ai reçu, mais d'une violence. Alors que... Enfin, c'est un bouquin, tu vois. Mais je me souviens, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais... C'est pensé, genre, il y a des gens qui pensent ça. En effet, le fait de me... Enfin, forcément, moi, j'ai jamais vraiment questionné ce truc du butch for butch parce que... J'ai été déjà dans le passé avec d'autres butch et...
Peut-être définir, avant de commencer ça, exactement ce que c'est le butch for butch.
Le butch for butch, c'est le fait pour une butch de sortir avec une autre butch et de volontairement se diriger pour relationner avec des butch. Ça s'oppose énormément au butch for femme, en général. Du coup, c'est les butch qui sont avec des femmes et il y a aussi le femme for femme qui sont les femmes qui relationnent avec des femmes. Et généralement, c'est des attirances et physiques, mais et mentales aussi, puisque évidemment, il y a des manières de penser. Et on en parlait aussi sur le fait que les relations transmasques et les butch, elles sont très proches parce que chez les personnes trans, il y a beaucoup le T4T, donc pour le fait que les personnes trans sortent entre elles. Et pour les butch, il y a ce truc du butch for butch qui est le fait de, en fait, juste être avec quelqu'un qui connaît les mêmes violences que nous, on connaît. Et il y a une histoire aussi de vraiment être ensemble pour se protéger, pour savoir, en fait, je sais ce que tu as vécu, tu sais ce que j'ai vécu, on est ensemble. Et il y a vraiment un care, mais de zinzin, quoi. Non ?
Tout à fait.
Y a une expérience partagée aussi qui permet que... Il n'y a pas besoin forcément de tout expliquer et de revenir, en fait, sur toutes les choses. Juste, c'est une... C'est un terrain d'entente commune.
Ouais, et puis il y a le fait de comprendre aussi les questionnements de l'autre. C'est ce qu'on disait, toutes les questions par rapport au genre et tout. Alors, c'est vrai que moi, je me souviens, au début du moment où j'ai commencé à être butch ou à me questionner sur être butch, je sais que mon partenaire à l'époque m'avait dit « moi, je pense peut-être transitionner et tout ». Et je l'avais hyper... mal reçu, j'étais un peu en mode « ouais, mais du coup, moi, je suis lesbienne, et comment ça se passe, et tout ça, machin, non ?» C'est des trucs aussi sur lesquels on évolue énormément en tant que butch, parce qu'à l'époque, je j'étais plus masque, j'étais pas du tout politisée, je comprenais pas trop tout ça, j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe. Et du coup, je pense que aujourd'hui dans le Butch for Butch, vraiment dans la volonté d'être avec une Butch, il y a le fait de comprendre tous ces questionnements aussi, de comprendre la dysphorie que tu peux avoir des fois, de comprendre tous les questionnements que tu peux avoir, que ce soit par rapport au genre ou à la manière de relationner en général.
C'est grave intéressant ce truc-là parce que moi je sais que j'ai toujours été un peu rebutée par genre les meufs masculines. J'ai toujours été dans le femme for femme, etc. machin, parce que la masculinité me dégoûte, tout simplement. Et en vrai, vous voir en parler, ça me change grave ma vision de ça. Un peu cet exemple-là d'une masculinité qui serait pas toxique.
Tu viens de dire qu'on était moches.
Drama. I didn't say that. Enfin, je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais...
Non. Et t'as dit les Gémeaux sont moches.
Non, hein, mais pardon, je savais pas que t'étais Gémeaux avant de l'écrire. Vous êtes magnifique, évidemment. C'est pas du tout ce que je dis. Pas en mode que je trouve pas les meufs masculines belles, au contraire. Et d'ailleurs, ça change de plus en plus. Mais plus que j'ai peur de ce que ça implique dans une relation. Tout simplement parce que la masculinité dans les relations, j'en ai eu des mauvaises expériences. Mmh. De manière générale, j'aime bien les gens un peu féminins. Et du coup, ouais, après, ma vision change de ça de plus en plus en côtoyant des femmes. Voilà, tout simplement. Bravo.
Mais c'est une histoire de réappropriation. Bien de sûr. Se réapproprier ce qui nous a été pris, ce qui nous a été volé, en fait. Ce lien à la masculinité et ce lien au fait qu'on a le droit de relationner entre Butch, c'est plus que OK. Enfin, moi, je rêve d'en voir plus. Vraiment. Ouais, et dès qu'on voit du Butch for Butch dans la rue et tout, on est là, genre...
L'extase.
Ouais. C'est là.
Bravo les Butch.
Bravo les Butch.
Et je voulais partager avec vous quelques petits fun facts que j'ai trouvé dans un livre que j'ai trouvé à Emmaüs, un truc que j'ai jamais pensé trouver de ma vie. Un livre qui s'appelle Le Royaume d'Argo, et donc qui parle de l'Argo au temps des Apaches, donc à Paris dans le début des années 1900. Donc vraiment, ça date comme truc. Et il y a tout un chapitre sur ce qu'ils appelaient à l'époque les invertis, donc les homosexuels, que ce soit les hommes et les femmes. Et il y a tout un chapitre en fait sur les lesbiennes, où alors déjà il y a des termes très drôles qui sont utilisés. Alors apparemment, la Gwyn fait allusion à la Queen, la reine, la femme, la maîtresse, pardon, de Charles II, qui s'appelait Gwyn, G-W-I-N. Et du coup, ça s'est transformé en The Gwyn, en allusion à The Queen.
C'est incroyable.
Voilà. Génial. Merci beaucoup. Wow.
Sachez-le.
Je savais pas.
Et il y a plein d'autres termes. Par exemple, il y a des termes qui sont dits pour top et bottom. Et il y a, alors, il y a la vrille et la par exemple... entre grosses guillemets, l'amitié entre deux femmes, ça s'appelle la flamme. C'est très mignon. L'amitié entre grosses guillemets, évidemment.
Oui, elles sont très bonnes amies. Comme diraient les livres d'histoire, elles sont très bonnes amies.
Les colocataires. Et aussi, pour d'autres mots pour dire Gwyn, il y a la gousse, la gavousse, bon, la goudou, tout le monde la connaît, l'éplucheuse de lentilles,
oui.
La gougnotte, qui aime l'ail, qui tape l'ail. Je sais pas c'est quoi le problème avec l'ail.
Je pense que c'est très sexuel.
Sans blague.
Et la maison de tire-bouchon.
Attends, quoi?
Qui est de la maison du tire-bouchon.
Personnellement, j'habite rue du tire-bouchon maintenant, du coup. Hein,
Non, sérieux?
Non, c'est pas vrai. Ça
aurait été incroyable.
C'était une allusion pour dire que je suis lesbienne.
J'y croyais vraiment, j'étais là, waouh, c'est où? C'est vers le château?
Ouais, exactement.
Vers la roseraie?
Et donc du coup, par rapport au top et bottom, donc la Gwyn tient le rôle passif alors que la vrille est active. Elle lave la vaisselle ensemble et elles font des mœurs. Voilà, donc il y avait déjà à l'époque déjà des termes en fait qui existaient, et je trouve ça très drôle de voir.
Laver la vaisselle, je trouve ça méga imagé.
C'est très imagé.
C'est incroyable.
La vrille aussi.
La vrille ou la gouine, t'es plutôt vrille ou t'es plutôt gouine.
Réintroduisons ces termes.
Oh, pitié.
Et du coup, dans ce même livre, il y a aussi des exemples de... Du coup, on ne sait pas si c'est des butch, si c'est des personnes qui se considéraient femmes ou du coup qui étaient des hommes trans, mais qui ont passé leur vie en fait sous des identités masculines. Et en fait, il y a des coupures de journaux qui sont dans ce livre. qui date, par exemple, il y en a une qui date de 1883, qui parle du docteur Wise, qui décrit le cas de Lucy Ann Slater, dite le rêve, donc je pense que c'est le révérend Joseph Lodbell, qui vécut comme chasseur de fourrure chez les Indiens et fut connu sous le nom de la chasseresse.
Chasseur de fourrure, c'est pas mal aussi pour dire lesbienne, je trouve.
Ah, on rigole aujourd'hui. Hein. Ah, on rigole. Et du coup, l'exemple, c'est... Donc, cette personne a été abandonnée par son mari qu'elle eut dans sa prime jeunesse. Elle se considéra comme un homme et voit une ardente passion à une jeune femme qui avait été également abandonnée par son mari. Leur liaison fut sans nuages jusqu'au jour où Lucian Slater fut emprisonnée pour vagabondage. Mais il y a d'autres exemples, en fait. Il y a, par exemple, John Coulter, qui a été employé pendant une douzaine d'années au port de Belfast et qui vécut 23 ans avec sa femme, qui se sont mariés. Il y a énormément d'exemples.
C'était
en fait.
Quand, ça
1884.
Ah oui.
Mais en fait, il y a énormément de trucs dans les trous comme ça, politiques, où il y a énormément de lesbiennes qui ont profité de tous ces trous politiques, et pour la PMA, et pour le mariage. Et ça, c'est un truc mais de dingue, quoi. Parce que vraiment, elles ont vu les trous, elles ont fait...
ouais.
Là, on y va.
Bah, les femmes, en général, à cette époque, il fallait s'adapter. Hein.
C'est ça.
Ouais. Mmh.
Mais oui, du coup, il y a plein de flous, en fait, politiques qui font que toutes ces histoires-là, elles ont été effacées. Et vraiment, là, dans cette page de livre, il y a au moins 5 exemples de femmes. Donc, on ne sait pas si c'est des femmes, ou si c'est des hommes trans, ou si c'est des butch, ou si c'est... On ne peut pas savoir, puisque la terminologie a aussi beaucoup évolué. Et comme, en plus, à l'époque, bah, la position des femmes était tellement horrible que ça pouvait très bien aussi être un positionnement stratégique. Mais bon.
Ouais, on se sait.
Voilà, hein, c'est hyper précieux de retomber sur ces archives-là. Vous avez d'autres exemples de personnalités comme ça
Bah, Chloé Carré et Marcel Moore.
Oui. Ouais,
vraiment, elles étaient demi-sœurs, de base.
Ah bon?
Leurs parents se sont mariés, en fait, et ils les avaient déjà eus. Et elles se sont rencontrées, elles étaient genre, yes, on y va là. Et du coup, en fait, elles ont pu vivre toute leur vie commune. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elles sont proches, mais vraiment une sororité.
Bonnes amies.
Très bonnes amies. Et puis elles ont de la chance parce que vraiment avoir trouvé une sœur comme ça.
Elles faisaient la vaisselle et tout.
Voilà, elles faisaient énormément la vaisselle.
Bah, oui.
Et en fait, elles ont pu vivre toute leur vie en couple parce que tout le monde les remettait sous ce truc de bah, elles sont demi-sœurs quoi.
Putain, c'est fou, je savais pas du tout qu'elles étaient demi-sœurs.
Si, si.
Et Claude Carr.
Et j'ai aussi l'exemple de Rosa Bonheur, aussi peinte, première peintre en plus officielle de l'État français, et qui, pareil, a vécu avec sa femme, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui ont vécu ensemble toute leur vie, et c'était établi en fait qu'elles étaient ensemble, même si bon, les gens contournaient beaucoup en disant qu'elles étaient très amies, mais c'était connu en fait qu'elles étaient lesbiennes quoi.
Mais c'est aussi un privilège de la bourgeoisie. De pouvoir passer comme ça.
Ouais.
Mais voilà, bravo les butch.
LGBT.
Alors, ce soir, je vais vous parler de une série et un film autour... alors, je sais pas pourquoi il y a un truc en ce moment, voilà, mais ça va être un peu autour de l'enfance, collège, Et du coup, je voulais commencer par vous parler d'une série qui est sortie il y a quelques jours, je crois, qui s'appelle Samuel, qui est sortie sur Arte, qui a été réalisée et interprétée par Émilie Tronche. C'est une série d'animation en 21 épisodes qui font entre 2 et 5 minutes. Donc vraiment, ça se mange comme une chips. Vraiment, c'est très addictif. C'est dessiné avec un trait hyper minimaliste, donc tout est en noir et blanc, mais qui reste très expressif. Et on découvre la vie de Samuel, 10 ans, qui nous écrit à travers son journal. Il est amoureux de la grande Julie, il aime les arbres et le ping-pong, et il déteste Dimitri parce qu'il se la pète trop. C'est l'année des feuilles d'idole, du coup de boule de Zizou et du bœuf aux carottes à la cantine. C'est presque notre enfance, enfin en tout cas pour moi, c'est presque mon enfance, genre... coup de boule de Zizou, j'étais au CP. Donc, à ça, et du coup, on relate de ouf à cette série, parce que l'écriture est très bien faite, et t'as vraiment l'impression que c'est un enfant de 10 ans de l'époque qui t'écrit et qui te parle. Il y a des manières de formuler les phrases, etc., qui sont vraiment bien faites. Et c'est une série qui, je pense, résonnera en beaucoup de personnes de notre génération. Je vous conseille ce rayon de soleil très 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 fort. C'est très feel good, voilà, pour un petit moment de douceur. L'autre film dont je vais vous parler, c'est La naissance des pieuvres. Voilà, ici, on connaît, qui est sorti en 2007. C'est un film français réalisé par Céline Sciamma, qui a aussi fait Portrait d'une jeune fille en feu, Tomboy. Ça suit l'histoire de trois adolescentes. La majorité du film se passe à la piscine. C'est l'histoire de la naissance du désir, la découverte des dynamiques amoureuses et sexuelles entre personnes adolescentes. Il y a beaucoup de plans très très beaux à la piscine, notamment de notation synchronisée. T'as ce côté-là où l'endroit de la piscine, il a beaucoup résonné en moi parce que j'ai fait beaucoup d'années de natation de mon enfance au lycée. Et du coup, cette puberté-là, je l'ai aussi vécue à la piscine. Et je comprends que ça soit un espace où la vision de ton corps, du corps des autres, des désirs, des sexualités évolue vraiment. Déjà, y a un truc où à cet âge-là, c'est un peu un saut dans l'inconnu d'avoir ce désir-là qui commence à naître, d'explorer les relations sexuelles intimes. Ce truc-là aussi, un sujet que le film aborde, que je trouve très important, c'est l'hypersexualisation des jeunes filles et aussi l'auto-hypersexualisation des jeunes filles à cause du regard porté par les hommes sur nos corps, en fait, nos corps d'enfants, hein, très clairement, parce qu'à 15 ans et demi, tu es un enfant. C'est pas parce que t'as des seins que tu es un adulte, pas du tout. Et j'ai l'impression que ça rentre pas dans la tête de certains gros dégueulasses qui, en fait, vraiment projettent leur désir sur des femmes mineures. Ce film en parle vraiment très, très bien. C'est un peu dur même de poser des mots vraiment sur les sujets qu'il aborde, tellement il le fait bien lui-même, tout seul. Et c'est vraiment... J'ai écrit quelques mots pour un peu décrire et pour renvoyer dans l'ambiance. C'est les vestiaires de la piscine, les poils sous les bras, la brassière qui sert à rien et l'impression que son corps est une grosse machine, l'impression de dépasser. Période. Allez regarder.
On a pas mal pu aussi discuter, vous m'avez pas mal parlé de séries, notamment The L Word, dans cette émission. Je sais pas si vous avez envie d'en parler un petit peu ou pas du tout de cette série.
Moi, j'ai fait découvrir The L Word il y a pas si longtemps à Jade.
Enfin, je connaissais évidemment l'appellation, etc. Non, je m'étais pas jetée à l'eau, mais dingue. Mais c'est quand même une série intéressante dans le sens où déjà, c'était la première... Vraiment, 10 ans avant Orange is the New Black, je crois, quand elle a commencé. Et donc, les deux seules séries qui ont, pour la première fois, présenté une galerie de personnages, pour la plupart lesbiens, avec des évolutions, évidemment, dans les identités. Et il y a des personnages hyper intéressants, comme Shane, donc, qui est quand même une bonne représentation aussi de la Butch. Et Max, c'est ça ?
Max,
ouais. Max, oui. Tu peux en parler si tu veux.
Max, qui du coup est un personnage, spoiler, mais qui va transitionner et qui en fait est présenté vraiment comme une butch de base et qui va vers une transition. Donc on a vraiment, c'est un personnage qui est hyper complexe et qui a une relation hyper complexe avec lui-même aussi. Mais en fait, The L Word, c'est juste une... C'est une série à laquelle qu'il faut regarder avec vraiment énormément de recul pour la première génération, parce que maintenant, ils ont refait une génération qui est une génération de réparation, un petit peu de toutes les erreurs qu'ils ont faites dans la première génération. Mais ça a été hyper important, en fait, pour la communauté, de juste pouvoir enfin avoir une série dans laquelle on est tous représentés sans exception, quoi, et d'avoir... des intimités lesbiennes, quoi, genre des amitiés lesbiennes et des groupes de copaines entièrement queer, quoi.
Hey.
LGBTs.
Et du coup, maintenant on écoute Lesbians on Ecstasy avec le morceau Clubbing for Clubbing.
We'll be right back.
C'était donc Lesbians on Ecstasy avec le titre Parachute Clubbing. Voilà.
LGBTIS.
Et donc, on arrive au terme de cette nouvelle émission.
Yay! Ah. C'était super.
Bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
J'adore. Avec plaisir.
C'est toujours plaisir de recevoir des copains différents à chaque fois. Donc, gros bisous et à dans un mois.
Gros bisous. Bisous. Bravo, bisous. Les lesbiennes.
Bravo les lesbiennes.
Bravo
les lesbiennes.
Bravo,
bravo, bravo. Bisous. Parfait.
My circumstances, I found myself in avalanche sands of time, steadily filling my mind. Moving's not an option. Memories pass, cloud my thoughts in search of a remedy. Mistakes become an enemy. I'm consumed by the fact I missed out by not giving my heart out, and grace became all I ever wanted by my side. Blessed by the company, daily depleting pride, and found a way to press on, someone to fight for. But I made the mistake of retracting my attention, and all I wanted to say when I mentioned how the sands of time have left me dry. My oh my, I'm feeling so low, low, wondering how I'm letting her go, go. Feeling so low, wondering how I'm letting her go. Feeling so low, I'm looking at the hourglass, sands of time moving fast. Looking at the hourglass, effect as it wrecks my past. Looking at the hourglass, sands of time moving fast. Looking at the hourglass, looking at the hourglass. Feeling so low, low, letting her go. Feeling so low, letting her go. Looking at the hourglass.